pour
oui,
tout.
Oui, bah oui.
En tout, ok. État général, 13, 14, 15 novembre, Avignon. État général, pardon.
Merci.
Donc, normalement, le mieux, c'est de faire que l'appareil tourne en même temps que les gens prennent la parole.
C'est ça qu'on va faire.
Si on est au milieu, on entend très très bien.
Je ok.
Bien que, comme vous voulez. Si vous voulez.
C'est comme vous voulez. Hein, c'est
comme vous voulez.
Si vous le posez, il y a plein de choses que vous n'entendrez pas, donc il faut que ça circule.
On va...
Vas-y, commencez okay. votre tour et après je te parle.
Donc, comme je vous ai dit, je suis l'animatrice juste pour la réunion. C'est qu'une titre pour organiser les réunions. C'est pas du tout un rôle spécial ou autre. Je suis participante comme vous, cette participante. Donc, on va commencer par faire un tour de table. Je demanderai juste que chaque personne présente le prénom, d'où on vient et aussi peut-être nos motivations pour être présent aujourd'hui. Je peux commencer. Et puis je tourne de n'importe quel sens. Donc moi je suis Amanda, origine des États-Unis, j'habite en France depuis maintenant 8 ans et je suis militante en Aveyron. Donc voilà, mes motivations à être présent, c'est pour participer à ce moment, c'est pour partager, pour mieux comprendre et pour pouvoir mieux militer et mieux agir dans mon territoire. Voilà. Je passe par là.
Alors, on appuie, vas-y.
Ah, c'est bon, hein? C'est bon. Enregistre.
D'accord. Donc, moi, je m'appelle Henriette. Je viens de Marseille. Je suis membre du collectif IDEM. Collectif IDEM, c'est un collectif qui s'est créé en 2012, qui a organisé 2 années de suite la Pride à Marseille et encore cette année. Voilà. L'idée du collectif, au départ, c'était de... contribuer à redynamiser le tissu associatif marseillais, notamment après l'Europride qui a été plus ou moins réussi, on va dire. Donc bon, il y a des associations qui ont organisé des choses pendant cette Europride, notamment le CEL avec le Lesbo Pride. Nous, on a organisé un forum euro-méditerranéen dont il est sorti un livre, on a tenu justement à compulser tout le travail qu'on avait fait. Donc il y a eu des interventions très intéressantes, notamment par rapport à la transidentité. Et donc voilà, ce livre est disponible ici pour le voir. Voilà, précédemment, j'étais aussi membre du CEL, au 3G, une association, un bar associatif lesbien. Voilà, la motivation pour être ici, c'est justement pour participer un petit peu à cet état, à des lieux des tissus associatifs, la manière dont les associations agissent, comment on peut se coordonner, quel lien avec les collectivités territoriales, ça je pense que c'est bon, voilà, comment on peut renforcer notre cohésion, comment au niveau national on peut être entendu. Ça intéresse particulièrement IDEM parce que justement on intervient sur Marseille dans la région PACA, mais on a aussi vocation à fédérer les énergies, les forces, participer à ça, voilà, c'est notre. Ça fait partie d'un des objectifs de l'association, qu'on soit plus entendu au niveau marseillais, régional et national aussi. Donc voilà, et juste dans le collectif IDEM, il y a 11 associations, dont Amnesty, le Planning Familial, le Refuge, etc. Plusieurs associations nationales et marseillaises également. Voilà.
Alors, moi je suis Flora Bolter, je suis coprésidente du Centre LGBT Paris-Île-de-France. Donc, le champ d'action c'est l'Île-de-France. On est basé à Paris, on agit un peu en lien avec des gens en Île-de-France, sachant qu'évidemment c'est toujours un peu compliqué de faire des actions dans le reste de l'Île-de-France en dehors de Paris, mais on essaye de le faire. Et on a en tout cas beaucoup de membres qui viennent d'Île-de-France, ailleurs de Paris, donc c'est Île-de-France. On est à la fois une maison des associations, entre guillemets, un réseau associatif de 80 associations et un centre, donc un lieu physique, qui fonctionne grâce à une centaine de bénévoles qui sont là, qui permettent d'être ouverts 6 jours sur 7 et de fonctionner tout à fait correctement en proposant tout ce que propose un centre classique. Pourquoi je suis là? Je suis là parce que ça fait un certain temps que je suis dans les associations LGBT, donc depuis 1995, et du coup, c'est vrai que j'ai vu évoluer beaucoup le paysage des revendications, mais aussi des générations militantes, entre guillemets. Et en ce moment, j'ai un peu l'impression qu'on est dans une espèce de... Alors, il y a une crise du modèle associatif en général en France, mais il y a aussi une certaine instabilité ou une certaine inconnue sur les revendications ou une baisse de charges depuis que le mariage est passé. On est confronté aussi à des volontaires qui sont parfois moins mobilisés. Alors on a des revendications, bien sûr, on sait ce qu'elles sont et on est très mobilisés pour les faire passer, mais c'est vrai qu'il y a un manque peut-être de cohésion d'ensemble, ou une perte de visibilité, un flou peut-être global au niveau de l'ensemble des associations sur où on va et ce qu'on fait. Et on espère que les états généraux pourront aider à ce que les uns et les autres, les unes et les autres, on puisse en discuter ensemble et essayer d'évoluer en synergie vers quelque chose de commun. Voilà. Flora.
Bonjour à tous et toutes. Du coup, moi, c'est Théo Brigand de l'association WED de lutte contre le sida et les hépatites. Je viens de Paris. En fait, Ed a souhaité être présent aujourd'hui à ces états généraux parce que l'ASSO travaille depuis un certain temps maintenant à faire en sorte que le mouvement LGBT se réapproprie les questions de lutte contre le sida et les hépatites, parce que très longtemps ça a été délégué à des associations de lutte contre le sida en tant que tel, ACT UP, Ed, et ainsi de suite. Et en parallèle, on voit aussi qu'il y a une volonté un peu d'invisibiliser l'épidémie de VIH au sein de nos communautés, qui va en parallèle avec une sorte de sérophobie qui est dans la société, mais qui est aussi chez les gays. Et on trouve aussi que c'est du coup important que le milieu LGBT, c'est un peu ce qu'on attend de ces états généraux, se saisissent des questions de lutte contre le VIH, se saisissent des nouveaux outils de prévention, donc le préservatif, le TPE, la PrEP, le traitement comme outil de prévention, et qu'on s'approprie collectivement ces outils, qu'on puisse en parler pour qu'on puisse aussi parler du VIH et déconnecter la peur du sida, de la peur de la personne vivant avec le VIH, parce que là, il y a un vrai combat à mener. Donc, on pense que ça peut commencer, continuer ici.
Alors, bonjour, je m'appelle Gérard, je viens de San Francisco, où je suis un des responsables du Centre d'archives et musée GLBT, là-bas. Ça fait plus que 3 décennies de séjour en France, et dès le début, je me suis toujours intéressé à la vie associative LGBT. Donc, je suis là principalement pour m'enseigner sur ce qui se passe actuellement en France, et pour mieux comprendre la vision de l'avenir des militants actuels. Mes thématiques principaux sont la mémoire, le passé, l'histoire, la transmission, le contact entre les générations pour faire en sorte que cette transmission s'opère et finalement pour créer une culture LGBT dynamique, vivante. Alors, je suis là principalement en observateur, mais j'aurais certainement quelques propos à faire.
Bonjour, Michel. De Moselle. Je représente l'association Contact, qui est un réseau d'associations présent sur 56 départements en France. Donc on existe depuis un peu plus de 20 ans. Et les personnes qui font partie de ce réseau sont à la fois des LGBT, mais aussi des parents, des amis, des homoparents. Enfin voilà, donc en fait, c'est toute une sphère large et familiale. Et On essaie de, au travers de nos actions, d'activer ou de réactiver le dialogue dans les familles. En fait, j'ai un de mes collègues qui a mis sur Facebook, il y a un arrêt, genre pour le train, il y a un arrêt avant le refuge, c'est contact. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on intervient un peu en amont en essayant de faire en sorte que dans les familles, les gens se parlent pour éviter des situations catastrophiques d'enfants qui sont jetés à la rue et autres. On a à peu près 200 bénévoles sur toute la France et on fait donc des interventions en milieu scolaire, mais pas que. On organise des groupes de parole et aussi des rendez-vous individuels pour toutes les personnes qui ont besoin. On essaie de travailler en partenariat avec d'autres assos LGBT, ce qui n'est pas toujours évident. Et aussi avec d'autres associations de lutte contre les discriminations. Par exemple, là en Moselle, on est avec SOS Racisme et on travaille souvent avec eux dans les interventions en milieu scolaire, ce qui a une portée assez intéressante. Et on essaie de développer ça. Et aussi, on essaie de contacter au maximum toutes les instances familiales, la CAF, les missions parentalité, etc. Et on bosse avec la PGL. Voilà, bon, en gros, c'est vite résumé. Pourquoi je viens ? Bah, pour vous rencontrer, pour mieux vous connaître, pour trouver oui, une cohésion, le mot cohésion est important, pour parler de partenariat, pour essayer de faire ressortir des combats importants à mener, comme la PMA. Y en a d'autres, bien sûr. Voilà. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Annie, je viens d'Avignon, du Vaucluse. Je suis là à titre individuel, mais je milite dans une association qui s'appelle Féministe, qui s'appelle Femmes Solidaires, et qui a une émanation destinée aux lesbiennes, qui s'appelle Eléa. Nous organisons des soirées cinéma, des randos, des sorties culturelles à l'attention des lesbiennes du département, des départements voisins. Et je suis là pour être à l'écoute de toutes les expériences des uns et des autres, parce que je me sens évidemment concernée par tout ce qui peut être dit ici et par toutes les idées que je pourrais prendre pour agir pour la suite. Et j'ai bien l'intention de prendre ma part dans le militantisme lesbien et homosexuel. Voilà.
Alors Alexis, je suis enseignant en lettres, histoire, géographie à Nancy. On est proche. À ce titre, je suis engagé depuis une dizaine d'années dans le syndicat, parce que je suis dans l'enseignement privé sous contrat. Oui. Oui. Et donc, ça fait 3 ans que j'ai une mission nationale de lutte contre les discriminations dans le cadre de mon syndicat. Et à ce titre, je siège au collectif éducation contre les LGBT-phobies en milieu scolaire. Donc, le collectif est la FEPCFDT, voilà. Formation enseignement privé. Je viens ici accompagné de 4 personnes pour le collectif. Donc le collectif existe depuis 12 ans, et c'est un collectif intersyndical, mais aussi il y a des parents d'élèves, la FCPE, et des étudiants, étudiants et lycéens. Donc on est assez représentatif du milieu scolaire et universitaire. On travaille sur différentes problématiques de formation, de pédagogie, en lien avec la DGESCO, le ministère, Défenseur des droits. Enfin, on a déjà rencontré certaines personnes autour de cette table. Au niveau des attentes, évidemment de rencontrer des personnes pour pouvoir se faire connaître et connaître pour pouvoir travailler ensemble. Et puis, porter et diffuser les mêmes regards sur ces engagements. Quoi. Voilà.
Antonin Lemay, il. Donc je suis militant au centre LGBTI à Rennes, mais je suis là aujourd'hui avec la casquette de vice-président de la Fédération LGBT, qui est une fédération qui regroupe donc des centres LGBT et des associations LGBT un peu partout sur le territoire en France. Et donc rapidement pour... et qui ces associations qui elles-mêmes déjà regroupent d'autres associations comme idem comme tu expliquais, voilà, donc ça fait du coup un bon aperçu en fait de ce qui peut se passer sur le territoire avec les différences aussi entre les villes, parce qu'il y a quand même de grosses différences de contexte. Donc nous, pourquoi on est là? Tout simplement parce qu'on travaille déjà à fédérer et à essayer de rendre les moyens et les idées un peu plus collectives. Donc forcément, nous, la démarche est en droite ligne de ce qu'on essaie de faire au quotidien. Donc on vient là aussi pour poser la question des moyens qui nous sont donnés ou des moyens qu'on peut aller chercher, réfléchir à ça collectivement, puisque je pense qu'on fait tous le constat localement que pas de moyens, c'est pas d'action, et qu'à long terme, ce sera plus vivable. Donc voilà, il va falloir se poser clairement la question de comment on continue. Et puis, et aussi, surtout, ouais, pour rencontrer les plus petites associations qu'on a un peu de mal des fois à aller voir, parce que justement, pas de moyens, donc pas de déplacement, y compris pour la fédération qui ne dispose pas d'un trésor de lingots d'or extensible. Voilà. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'aller voir ce qui se passe un peu partout sur le territoire et mieux comprendre ce qu'on peut faire ensemble. Et voilà, on va y arriver.
Donc, Géraldine, Rouen, association Lesbien Tagueti.
Rouen, c'est ça?
Rouen, oui. Nous, on est une petite association qui s'est créée à la fin de l'année 2013. C'est une association de lutte contre les discriminations qui regroupe, on va dire, 95% des lesbiennes. À tendance assez féministe aussi. Ça fait 2 ans qu'on porte la marche des fiertés de Rouen. Avec 3 bouts de ficelle et très peu de bras. On grossit tout doucement. On a essayé de monter une interassociative avec les autres associations qui sont sur la place de Rouen. On est membre du Centre gay lesbien de Normandie. La Normandie fusionnant, on tend à consolider ses liens et de poursuivre l'interassociative de la place de Rouen en amenant l'ensemble pour créer un vrai Centre gay lesbien de Normandie. C'est pas facile, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas facile. Du coup, on a signé la charte. Pourquoi on est là? Pour travailler un peu plus fort à cette cohésion nationale, rencontrer les autres et voir qu'on a des problématiques communes. Ça aide aussi à mieux comprendre celles qu'on a en local quand on a la tête dans le guidon. En sortir peut-être des guidelines, et je pense que ça aidera aussi peut-être à nous fédérer plus facilement en local si on a vraiment un lien plus fort au niveau national. Puis toutes les autres problématiques économiques que vous avez déjà citées, dans lesquelles on se retrouve, voilà.
Je m'appelle Hélène, si je vous racontais ma vie d'activiste, il faudrait au moins une semaine. Donc moi je suis né dans un monde où on faisait des lobotomies et des électrochocs sur les homosexuels et sur les trans. J'ai milité en 72 au phare Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Le R me plaisait beaucoup parce que j'ai certaines idées sur la société qu'il faudrait la secouer un peu et la changer. Donc je suis à ACT UP Paris depuis 20 ans. J'y suis allé quand je me suis contaminé, quand je suis tombé sur des études américaines qui disaient que aux États-Unis, le taux de séroprévalence chez les trans était de 30% et chez les trans de couleur de 60%, et où on voit vraiment le lien entre la discrimination et les prises de risque. À ACT UP, j'ai fondé donc la commission trans il y a une quinzaine d'années. Il n'y avait aucune institution du sida à cette époque qui avait des référents trans. Je m'intéresse au sida sur tous les terrains. Je le vois comme vecteur pour révéler les injustices, les inégalités et les choses comme ça. Je m'intéresse aussi parce que les personnes de ma génération, les femmes trans de ma génération, j'en connais pratiquement aucune qui a échappé à la prostitution et je ne supporte pas des personnes qui ne sont pas passées par la prostitution tenir des discours en assénant des vérités qui n'ont rien à voir avec la vérité que les personnes vivent sur le terrain et en s'alliant avec des associations que je considère comme intégristes. Je parle du NID, par exemple, une association qui, au plus fort de la crise du sida, refusait de distribuer des préservatifs aux prostituées. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, voilà. Je suis ici parce que j'ai envie de rencontrer les autres, parce que je suis une Parisienne non-parisianiste, parce que je refuse l'hégémonie de tel ou tel groupe sur les autres, parce que j'ai besoin de la parole des autres. La France n'est pas un pays de culture monolithique. On va retrouver des variances de culture en France. Moi, personnellement, alors que ça n'a rien à voir, je suis pas lié à des gens ayant parlé les langues régionales. Je trouve ça absolument terrifiant de voir les langues régionales disparaître. Je sais que c'est une vision un peu folklorique parisienne, mais quand même. Et puis, moi, ce que je vois, c'est la bureaucratisation chez les LGBT, le fait des personnes. Moi, je suis bénévole depuis 20 ans. Évidemment, on va pas demander à une médecin qui travaille sur le sida de travailler bénévolement. Hein, il faut quand même être. Mais je trouve que la salarisation crée des castes, crée des choses comme ça, et ça me fait peur. Et puis on va terminer. Il y a un discours très intéressant là. Il n'y a pas un mot sur le fait que le gouvernement a laissé tomber la loi qu'il avait promise sur les trans parce qu'il avait peur des cathos fachos. Ça n'est même pas mentionné. Alors là, c'est reparti avec M. Erwan Binet. Et moi, j'œuvre pas du tout pour démolir ce truc, mais pour que ça réussisse et qu'on puisse un petit peu l'améliorer. La dernière chose... Moi, je suis terrifiée par la rigidité. D'accord, oui, j'ai la voix forte, j'ai un gène vocal. Oui, et puis je suis terrifiée par la rigidification du régime. Je suis terrifiée de voir un Renaud Camus qui écrivait dans Le Guépier, qui est aujourd'hui le grand idéologue du Front National avec sa théorie du grand remplacement qu'il a piqué au Cajun. On se demande, mais finalement, toute la révolution qu'on a faite, on l'a faite pour qu'il puisse y avoir des PD ouverts au Front National, quoi. Qu'au lieu de leur casser la gueule, maintenant, on les... Et voilà, je suis venu aussi, je suis venu parler et d'écouter, de solidarité, parce que moi, c'est là où les gens existent, c'est quand ils sont solidaires. Mais il faut d'abord être solidaire de soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même.
Super. Bon, on a fini donc le tour de table. Je vais juste préciser un peu mon rôle. Donc, mon rôle, c'est de vous permettre d'échanger de façon constructive. Donc, comme on avait déjà abordé, il faut être consciente un peu de le partage de paroles, de s'exprimer, mais pas de prendre 25 minutes pour s'exprimer quand on est tout seul pour échanger. Donc, si je regarde mon montre, c'est pas parce que je m'ennuie, c'est pour vous rappeler. Juste comme ça, on peut tous partager. Là, il nous reste une heure, je pense qu'on est pas mal. Avant de commencer, je vais vous proposer qu'on prenne une ou deux minutes pour réfléchir sur la question. Et puis comme ça, on va commencer la discussion. Celui qui le souhaite va prendre le bâton. On ne va pas faire comme ça. Moi, je trouve que ça nous aide pas. Peut-être on n'est pas prêt, peut-être on est prêt. Donc, je vais arrêter ça pour deux minutes, comme tant qu'on réfléchisse. Non, ça, c'est pas arrêté. Bon, maintenant, je propose donc qu'on passe à la question, d'où partons-nous? Comme je vous ai déjà dit, on demande juste de dire le prénom, le champ d'action, la géographie d'action, quand on commence. Gardez un œil sur le montre et aussi, si on a quelque chose à dire par rapport à ce qu'on nous dit. Par exemple, si j'ai envie de rebondir sur quelque chose qu'Alexis me dit, je vais le noter. Parce qu'on fait une première tour de tout le monde puisse s'exprimer avant, de, si on a le temps, de rebondir. Donc n'hésitez pas à prendre des petites notes si vous pensez « Ah, après, je veux dire ça, il n'y a pas de problème, si on a le temps, on le fera. » Ok ? Donc, qui veut commencer ?
Alors, c'est une question assez large, donc du coup, je ne sais pas si je suis dans le créneau. Alexis, ouais, du collectif éducation contre les discriminations LGBT-phobes à l'école. À Nancy, enfin, moi je suis à Nancy, mais c'est le collectif est nationalement représenté. Moi j'ai noté deux points. Concernant le champ d'action scolaire et universitaire, les discriminations LGBT-phobes sont peu abordées, alors que toutes les autres discriminations sont clairement implantées dans les programmes. Donc c'est un sujet qui est peu traité dans le monde scolaire, avec un véritable coup d'arrêt des avancées en 2013, enfin à peu près partout. Donc on a été plein d'espoir au moment de l'entrée du nouveau gouvernement et de la commande du rapport Téchenet qui reprenait l'essentiel de nos revendications et à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est finalement encore plus en retrait de ça, puisqu'on a un gouvernement qui revient sur des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement de droite précédent, notamment le dispositif Ligne Azur, qui est visiblement mis à mal, malgré tout ce que peut en dire le ministère actuel. Et le deuxième point, c'est qu'on part du constat qu'il est difficile d'intéresser nos collègues sur ces problématiques, de fédérer et de mobiliser, puisque on est dans un corps de métier qui a d'autres questionnements liés au programme, et donc comme c'est pas dans les programmes, on traite pas, et liés à des conditions de travail qui se dégradent aussi énormément depuis 6 ans. C'est un sujet qui, enfin, il y a d'autres choses prioritaires à intéresser, même dans le cadre de nos organisations respectives. On est la caution. C'est très bien, vous travaillez là-dessus, on vous fait confiance, mais on va peut-être pas en parler de trop parce que on a d'autres choses à traiter. Voilà. Donc du coup, on part d'un état des lieux plutôt pessimiste, et donc justement, on revient sur la présentation précédente en disant qu'on est là pour se redonner de l'optimisme et se dire qu'on peut pas aller beaucoup plus en retrait. Voilà. Je passe la parole. Vous avez tous travaillé. Je vois.
Et pas de mauvaise réponse.
Moi, je viens. C'est une image très frappante. C'est mon ami Michel, celui qui m'a fait rentrer dans un journal, qui m'a permis d'être la première trans en France à travailler dans un grand quotidien. Et il y a son cadavre, et son cadavre est entièrement bouffé par la maladie. Il est à peine reconnaissable. Ça, c'est à partir de ça que je me suis engagé dans la lutte contre le sida. C'est à sa mort que je suis allé voir l'estrade. Michel suivait pas mal Act Up. Je lui ai dit, ben voilà, vous aviez Michel est parti, maintenant c'est moi qui viens. Pour les trans, l'image, elle est simple. Environ 70%, 80% des amis trans que j'avais quand j'avais 20 ans et quand je dispensais des rafraîchissements horizontaux aux touristes de Pigalle, environ 70% sont mortes aujourd'hui. Et alors bon, oui, je suis une grande gueule. Oui, je peux monter sur une chaise et hurler. Oui, je peux insulter les gens. Mais qu'on sache que c'est à partir de ces deux réalités que je suis vitupérante. En même temps, il faut aussi dire les progrès que j'ai vus, mais c'est ahurissant. Même ça, ici, vous voyez qu'une mairie, être reçue dans une mairie,
Moi, mon truc, c'est dès qu'on est dans une rue, on commence à s'assembler, il y a les CRS qui débarquent avec des matraques. Et la chose que je trouve très intéressante dans ce pays, c'est à quel point la société civile avance et à quel point les gouvernements sont en retard. Et puis aussi, les mœurs, ça avance, mais du côté social, on en est au même stade que quand j'étais militante gauchiste et qu'on se passait les chiffres des fils d'ouvriers dans les universités, ce qui était environ 2% ou 1%. On n'a pas beaucoup changé. Bon, je suis très bavarde, je passe le bâton.
Tu peux prendre quelques minutes si tu veux. On prend le temps qu'il faut, mais...
On peut rajouter une couche.
C'est impressionnant. Moi c'est toujours Florent. Ce que je trouve que les deux interventions qui viennent d'être faites sont très intéressantes parce qu'elles soulignent bien à la fois toutes les évolutions qui ont eu lieu et les évolutions positives aussi, parce qu'il y en a aussi, et on a tendance à se vautrer parfois dans le marasme en se disant c'est horrible, machin. Mais même moi, à l'échelle de ma vie, à l'échelle de mon militantisme, la première Pride qui s'appelait, déjà elle s'appelait Gay Pride, déjà à la base c'était déjà relou, la première Pride que j'ai faite, il y avait des gens qui avaient des masques pour pas qu'on les reconnaisse, et c'était trop peu les cas tendus. Et il y avait les politiciens locaux qui rigolaient quand on leur demandait s'ils s'engageaient à voter pour le CUS ou etc. Et voilà. Et aujourd'hui, on en est quand même assez loin, aussi bien en termes de société que de législation. Et c'est alors ça vient pas magiquement. Les évolutions sociales ne sont jamais le produit d'un vide ou d'une fulguration de la divinité. C'est du gros boulot. C'est un travail souvent ingrat et c'est un travail pour lequel il n'y a aucun remerciement ou presque pas. Et voilà. Mais en même temps, il y a ça. Et puis en face de ça, il y a aussi une gélification totale, ce que tu disais. C'est vrai que les discriminations liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre ou aux caractéristiques sexuelles aussi sont des choses qui sont pas perçues comme des discriminations, c'est juste c'est pas vraiment une discrimination, c'est juste voilà, c'est des gens qui sont traditionnels, c'est un truc religieux, c'est un truc culturel. C'est aussi des choses qu'on dit souvent par rapport en comparant avec le sexisme aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont des violences par exemple qui sont pas perçues comme des violences parce qu'elles sont tellement banalisées et c'est le même mécanisme. Il faut qu'on rende visible pour une grosse partie de la population ce qui va pas. Je pense que c'est une grosse partie du boulot, c'est de jamais se taire, c'est de demander, c'est de pousser et de faire en sorte que ça évolue et que ça bouge. Et parfois on se sent coincé, on se sent les cautions d'eux. Je pense que c'est un peu ce qui est le cas actuellement dans ce que je constate parmi les volontaires, parmi les gens que je connais après. Après l'évolution du mariage, on a souvent l'impression qu'on n'a plus, on n'est plus écouté. C'est un peu genre vous avez eu ça, maintenant c'est fini, c'est bon, on passe à autre chose, comme si tout était fait, comme si c'était l'alpha et l'oméga, comme s'il n'y avait pas des situations criantes aujourd'hui. Quoi. Et c'est un gros problème aussi au niveau de la recherche de subventions de financement. Parce que finalement, on fait tout ce qui devrait être du service public, d'action, d'accès aux droits, tout ça, c'est les associations qui le font. Et bien évidemment, comme on est en repli budgétaire, les premières choses qui sucrent, c'est les subventions aux associations. Donc du coup, ça, c'est pas fait. Et je pense que tout l'enjeu aujourd'hui, quand on parle de d'où partons-nous, c'est de savoir, en fait, c'est de réussir à trouver la ligne de crête entre le grand mouvement de fond qui tend à aller vers le progrès et qui n'y va pas magiquement mais qui y va grâce à nous et les contre-courants et notamment le très inquiétant repli identitaire, le très important repli nationaliste, sécuritaire, autoritaire, patriarcal qu'on voit en ce moment, qui est très important. Et je pense que c'est aussi un défi au sein de nos organisations, parce qu'on a aussi parfois des gens qui sont touchés comme tout le monde, tous multidimensionnels, donc on peut être sensible à certaines choses et pas à d'autres. Et voilà, et donc ça m'inquiète, mais en même temps c'est assez... je pense que c'est important aussi, à l'heure où on est, de ne pas oublier qu'on a quand même fait du chemin, même si c'était la force du poignet, et même si toute conquête est instable. Théo ?
Donc Théo aide Paris. Bon, plusieurs choses. Déjà, moi, être reçu dans une mairie, ça m'a semblé naturel. Donc du coup, je vois tout le chemin qui a été parcouru. Et effectivement, c'est assez impressionnant de voir comme ça. Enfin, j'avais pu le lire, mais... par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, entre guillemets, avec le mariage, on a obtenu le grand droit cardinal. Et en gros, bon, schématiquement quand même... les droits des hommes cis, blancs, séronégatifs ont été obtenus, et tout ce qui est femme aussi, même si du coup la PMA a été oubliée, même si du coup les droits des trans sont complètement passés à la trappe, même si les questions VIH sont invisibilisées, je pense que c'est aussi pour ça, parce que ce qui était particulièrement emblématique et sur le devant de la scène a été obtenu, qu'aujourd'hui on a du mal à remobiliser. C'est assez marquant de voir que sur le don du sang qui concerne ces mêmes publics, c'est la grande fenêtre médiatique qu'on a obtenue aussi ces dernières semaines. Donc il y a vraiment quelque chose à réfléchir là-dessus sur l'invisibilisation de nos combats, parce qu'on a obtenu et on a parcouru énormément, mais il reste le militantisme LGBT, c'est un sport de combat. On aura beau gagner et obtenir des victoires à la chaîne, il faudra continuer à se battre, parce que sinon on va aller sur un repli identitaire, et ça a déjà été observé dans d'autres pays. Et c'est aussi un combat qui, j'ai l'impression, évolue ces dernières années, et qui va vers la lutte contre le racisme, qui va vers le féminisme, qui va vers les assauts de travail du sexe, les assauts de santé avec Médecins du Monde. Enfin, c'est un combat qui est parti d'une situation de négation totale des droits. On a obtenu des choses et on s'élargit. Et donc, effectivement, la société civile, là, participe et à l'évolution de la société. C'est dans ce contexte aussi, au-delà de nos communautés LGBTQIF, qu'on doit s'inscrire.
Antonin, de la Fédération LGBT, et qui connaît un peu mieux le milieu à Rennes. Le constat que je fais, c'est que je suis jeune militant par mon âge, enfin, pas par le nombre d'années passées en association, mais j'ai moins de 30 ans. C'est que je vois quand même que la différence peut-être par rapport à ce qu'il y a pu y avoir avant, c'est que là maintenant on dispose d'appui théorique et en quantité énorme, et des moyens de les diffuser. Donc on a tous en fait à portée de main la possibilité d'aller se saisir de ce qui a été déjà pensé, et ça fourmille, il y a des tonnes de choses qui viennent de partout, mais qu'on se retrouve là actuellement avec des fois des courants justement théoriques en opposition, et qu'il faut aussi réussir à les concilier dans le militantisme, et que c'est pas forcément évident. Quand on a, alors c'est pas qu'une question de génération, ça l'est sur certains points, mais pas que. Et ça, je crois que c'est un gros enjeu en fait. Qui est peut-être moins abordé, mais comment est-ce qu'on concilie aussi ? Maintenant, on a peut-être la chance de pouvoir voir des courants différents, moins avant, on va dire, voilà. Enfin,
il y a toujours eu.
Il y a toujours eu, mais je trouve que là, c'est quand même assez fort, et ça clive quand même pas mal. La question aussi, c'est que là, du coup, toutes nos revendications, nos combats se technicisent, deviennent de plus en plus complexes, et ça devient de plus en plus difficile à appréhender pour les jeunes militants. Jeunes, c'est pas par l'âge, hein, c'est par la... l'expérience, bien entendu, et du coup ça nécessite une formation, la pédagogie auprès des militants, et à nouveau la question c'est avec quels moyens, qui forme, comment est-ce qu'on aide en fait ceux qui veulent s'investir à mieux comprendre, mieux appréhender les combats qui sont vraiment obtus quand on débarque, c'est dur de former un militant. Enfin, les bénévoles dans les associations, quand ils débarquent, il y a tout à expliquer, quoi. Donc ça, c'est aussi une question. Le fait qu'on ait plus de visibilité fait aussi que là, les assos explosent quand même sur les demandes de prise en charge ou d'accompagnement des personnes. Parce que maintenant, les gens qui vont pas bien savent qu'ils peuvent chercher de l'aide, donc viennent la chercher. Et en face, il faut, enfin, savent mieux, en tout cas, que ce qu'il y a pu avoir, osent plus. Y compris dans des territoires ruraux où c'était quand même bouché. Et donc, pareil, à nouveau, comment est-ce qu'on y répond, en fait, à cette vague, surtout post-manif pour tous, l'augmentation de prise en charge, en tout cas, à Rennes, ça a été la folie, quoi. Donc, comment est-ce qu'en face, on répond à ça? L'autre chose, c'est que... Là, on est dans un contexte qui est maintenant vraiment européen, mais qui est aussi complètement international. C'est-à-dire que tout ce qui se passe maintenant dans le monde nous affecte directement, y compris en région. Enfin, c'est pas que des questions qu'on porte nationalement. Ça se ressent dans l'activité des associations localement. Évidemment, par l'accueil des personnes réfugiées, mais parce qu'on n'est pas, dans une boîte hermétique. Tous les courants de pensée aussi qui se passent dans le monde maintenant se diffusent tellement vite. Enfin, les jeunes arrivent avec des idées des fois bien plus construites que des militants qui ont 20 ans d'expérience mais qui n'ont pas forcément pris le temps de réfléchir. Et il y a des jeunes qui arrivent avec des idées dingues, voilà. Et il faut réussir aussi, voilà, à absorber tout ça. Et moi, la question qui me pose le plus question, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir, enfin, créer ou continuer à créer des minorités dans notre minorité. Parce qu'on, c'est ce qui a déjà été dit, effectivement, les hommes cis blancs, séronègues, bien sous tout rapport, continuent à dominer aussi dans nos groupes la parole, les revendications, et comment est-ce qu'on fait émerger la parole des plus, des moins représentés et des moins nombreux. Et donc ça pose forcément la question de comment est-ce qu'on continue à aller vers un peu plus d'intersectionnalité de nos luttes, donc mieux prendre en compte les enjeux des autres discriminations, sinon je pense qu'on va dans le mur, voilà.
Donc moi j'ai Amanda, de Rodez, d'Alerte. D'où partons-nous? Je vais essayer, à pas trop parler du contexte de l'Aveyron et tout, vu qu'on va passer à ça, mais... Ce que je vois, d'où partons-nous en Aveyron, c'est on part de mouvement qu'on a créé il y a 3 ans, qui n'aurait jamais eu lieu si on n'a pas eu le soutien des hétérosexuels. Donc nous, on a dit, on est en lutte pour l'égalité de tous et toutes, ça comprend les hétérosexuels et on essaie vraiment de faire quelque chose d'égal. Parce que à la base, on était 3 à monter l'assaut et franchement, c'est une zone rurale. Les personnes, les personnes dans la communauté LGBTQI, ils avaient trop peur de s'approcher à nous. On était les fous, on militait, on proposait des trucs, mais non, mais on ne veut pas se faire afficher tout ça. Donc, bon, petit à petit, on peut parler de ça tout à l'heure, hein, mais on passe à un stade où c'est la communauté qui devient acteur, donc dans le militantisme. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc, pour moi, en fait, on vient... d'où viennent-nous? On vient d'une période où on avait la notion d'avoir besoin d'une étiquette. Moi, je suis L, toi, t'es J, toi, t'es I, je sais pas, bon, bref. C'est le mouvement un peu fractionné et ça m'a... Enfin, c'est une des raisons pourquoi je voulais absolument partager ce moment des états généraux. C'est parce que, vraiment, pour une fois, on avait l'impression de vouloir tous participer à la même chose et pas... Se mettre dans les petites cases. Moi, je suis bi, donc je milite pour ça, parce que je trouve que vraiment, en tant que bisexuelle, on ne comprend pas la bisexualité. Quand j'étais avec une femme, j'étais juste une lesbienne qui ne voulait pas l'admettre. Maintenant que je suis avec un homme, donc en fait, la bisexualité, c'est juste la curiosité. Excusez-moi, je ne parle pas de mes actes, je parle de mon orientation. Bon, bref. Donc pour moi, c'est un mouvement fractionné, avec beaucoup trop d'étiquettes, et j'ai été super contente hier, enfin, personnellement, que ça m'a touchée quand Olivier... Pi a dit c'est quand qu'on va dépasser de LGBT et on va juste dire C pour citoyen ou je ne me rappelle plus. Je trouvais ça bien. Après, on est assez positif, on reste optimiste parce qu'on voit que les choses avancent.
Non seulement le fait d'être reçu en mairie hier qui était énorme, enfin, moi je trouve, mais aussi le fait d'avoir de plus en plus d'implication de la communauté LGBT dans notre petite zone, notre département rural, très traditionnel par moment, et ce qui peut être très catho par moment aussi. Voilà. Je sais pas, quelqu'un veut parler ?
Il nous manque pour faire le tour, ouais.
Bon, ok, pour moi, nous partons. Oui, c'est ça, Gérard de San Francisco.
C'est San Francisco qui fait tout.
Oui. L'autre américain. Voilà, attends. Alors, bon, nous partons d'une histoire riche, mais très peu connue. Une histoire de militantisme, oui, mais également de une histoire des vies ordinaires, de courage quotidien, et qui est une histoire importante à partager. Et pour moi, créer des ressources pour documenter cette histoire et pour le transformer en patrimoine partagé et entre nous en tant qu'LGBT et avec l'ensemble de la société, nous donnerait des outils pour mieux penser nos vies actuelles et nos possibilités d'action pour l'avenir. Bon, la transmission de mémoire nous permet aussi de tisser des liens entre les générations et de démontrer que notre vécu a toujours fait partie intégrante de la société plus générale. Et donc voilà pour moi les bases de mon engagement de militante et aux États-Unis et en France depuis 8-3 décennies. Et dans les deux pays, il y a du travail à faire pour vraiment créer les institutions, les structures, pour faire en sorte que cette transmission de mémoire soit faite et qu'on découvre et qu'on bien documente et transmettre nos histoires à nous. Voilà.
Michel de Moselle. Le constat au quotidien de la souffrance individuelle, c'est quelque chose quand même de très très insupportable. Et en même temps, donc l'avancée sur le fait qu'on arrive à travailler avec les mairies, à travailler avec certains organismes comme la CAF, comme l'UDAF, par exemple, la PGL qui a intégré l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales. Ça veut dire pouvoir trouver des interlocuteurs dans la société civile. Tout ça, ça prend du temps, mais c'est positif, donc on avance.
Géraldine de Rouen, lesbienne taguettée. D'où partons-nous à LBTG? De quatre nanas qui en avaient ras-le-bol de s'ennuyer en campagne parce qu'il n'y avait absolument rien autour et qu'on avait ras-le-bol d'entendre les mecs parler à notre place pour nous expliquer ce qu'il fallait faire. Mais qui ne faisait pas d'ailleurs au passage. Donc d'où on part? On part de là avec 32 euros grâce à des tombolas faits dans des bars. Parce qu'on a organisé nos propres soirées et c'est comme ça qu'on a commencé à drainer un peu de monde et en achetant des trucs dans des tout à 2 euros, genre des lunettes en plastique, si tu devines toutes les musiques qui passent dans le blind test, quoi. Voilà d'où on part. Donc cette colère commune qu'on partage entre plusieurs militantes, qu'on a réussi à mettre en lien avec des collectifs féministes aux Normands, deux aux Normandes, tout est parti de là et de l'envie de se faire entendre, effectivement, de plus taire ces discriminations, de réussir à collecter plus de fonds, parce qu'avec 32 euros, finalement, on fait pas tant de choses que ça, et de continuer à poursuivre ces actions après les événements de la manif pour tous, après l'obtention du mariage pour tous, sans s'essouffler. Donc la difficulté après qu'on a, c'est à peu près tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire d'arriver à former des gens pour continuer avec nous, de les fédérer, de continuer à pouvoir les fédérer, de garder le lien avec les autres associations et pas que les Gwyn et pas que les féministes, vraiment tous les autres, et les maintenir dans cette idée que tout n'est pas acquis avec ça et que surtout, il y a beaucoup d'autres combats encore qui continuent, qui restent à défendre et que non, il n'y a rien d'acquis, quoi. Donc après, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que vous avez dit. Je suis complètement en lien avec vous là-dessus. La difficulté en province, ben là, j'ai peur de manger sur ce qu'on va faire ensuite, c'est-à-dire parler du contexte normand, donc je vais m'arrêter là.
C'est difficile à trancher. Tout est lié, quoi.
On n'a pas entendu... Donc, il y a Annie ?
Juste...
Je n'ai rien à rajouter de ce qui a été dit, c'est ce que je partage totalement, les expériences des uns et des autres. Le dernier témoignage me paraît le plus proche du mien, dans le sens où la démarche était et féministe et lesbienne, parce qu'on parlait des homosexuels, mais même si ce nom à l'oreille peut paraître neutre, il ne l'est pas dans la réalité. Il fallait que les femmes existent aussi. Voilà.
Ok. Ok. Donc, il ne souhaite pas s'exprimer. Ok. Donc, boum, 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 boum. Ok. Quelqu'un veut rebondir pour continuer? Là, on a un peu de temps pour juste parler librement de nos constats. Il nous reste 30 minutes.
Mais vraiment, je pense que ça sur le contexte aussi. Moi, j'ai des réactions, mais ça va créer le contexte actuel.
L'important, c'est qu'on avance, donc je propose que si quelqu'un a quelque chose de très ciblé, on commence juste, on continue dans d'où viennent-nous, en prenant en compte le contexte, mais en sachant que la prochaine atelier, on va vraiment parler de contexte.
Je peux essayer de rebondir.
Ouais, voilà.
Alexis, Nancy, collectif éducation. D'abord pour par rapport à ce qu'a dit Flora sur l'idée qu'avant, quand on avait remarqué dans les manifestations, il y avait la volonté, l'obligation de porter un masque. Moi j'ai l'impression que ça existe. Enfin, pour être en plus dans l'enseignement privé confessionnel, parce que voilà. Ça existe toujours et ce progrès, enfin, il n'y a pas eu cette évolution de possibilité de parler, d'enlever le masque et de dire on est presque dans le don't ask, don't tell, voilà, on en est encore là. Il faut surtout pas dire, on le sait, on n'en parle pas, quoi. Et si la communauté éducative le sait, on n'en parle pas. Donc ça, il n'y a pas eu de réelle évolution, en tout cas dans l'enseignement privé, on en arrive à. Quand on doit accompagner un enseignant ou un personnel en situation de discrimination, à avoir comme seule solution la mutation pour l'extraire et trouver dans mon contexte un établissement confessionnel moins réactionnaire pour qu'il puisse s'installer. Le fait qu'on soit plus visible, parfois, peut paraître presque plus négatif, puisqu'il y a un regard de l'institution qui montre du doigt et qui interdit encore plus d'en parler. Il faut savoir que dans l'enseignement privé, les structures sont régies par ce qu'on appelle les statuts de l'enseignement catholique, enfin privé catholique, et il y a des alinéas qui disent qu'on doit adopter les valeurs morales dans l'enseignement catholique. Pour être employé, donc tous les personnels de privés, c'est-à-dire privé, donc secrétariat, etc., on doit avoir des bonnes mœurs. Et donc, du coup, peuvent être licenciés si ce n'est pas le cas. Voilà, mais selon les statuts de l'enseignement catholique. Donc, on voit où ça peut aller. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont été licenciées parce qu'elles sont divorcées, hein, rien que ça. Voilà. Parce qu'elles sont, elles ont divorcé, elles ont une relation extra-conjugale. Donc ça commence là. Donc on imagine qu'on peut pas en parler d'orientation sexuelle ou d'autres choses. Ça c'était la réaction par rapport à Flora et par rapport à la volonté d'unifier un mouvement par les LGBT et plus seulement homophobie ou autre. Eh ben le problème c'est que on évoluait là-dessus, et il y a un réel coup d'arrêt pour moi aussi là-dessus. Quand on, dans le monde de l'éducation, aujourd'hui, quand on veut parler des discriminations LGBT, le ministère nous dit stop, arrêtez, on va déjà parler d'homophobie, on va peut-être pas leur ajouter trans, hein, c'est trop, là ça va trop loin, quoi. Ça va refaire venir dans la rue beaucoup de monde, et donc les campagnes actuellement parlent de lutte contre l'homophobie uniquement. On y retourne, c'est vraiment le recul. Voilà.
Oui, juste pour compléter, parce que j'ai pas parlé tellement du contexte parisien, qui est aussi un contexte local, bien sûr. mais à Paris, on a tendance à parler de contexte national, c'est une habitude tout à fait désagréable, désolée. Mais c'est vrai que, enfin, nous, ce qu'on constate aussi, alors, par l'augmentation de la visibilité, au centre LGBT de notre expérience, c'est que quand même, ça a beaucoup évolué. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe, et dans la Société Générale à Paris, aujourd'hui, ça a beaucoup bougé. Donc c'est aussi, on part aussi de ce qui est, voilà, du public dont on parle. Donc forcément, c'est effectivement des points de départ sans doute assez différents. Nous, au niveau de la relation avec les pouvoirs publics, ça a toujours été un gros enjeu. Initialement, donc, ça s'est créé vraiment de manière autogéré, autodéfini, par un lien entre plusieurs associations, etc. Puis ça a évolué pour se structurer de manière plus en plus pérenne, mais de manière quand même très dépendante des pouvoirs publics aussi. Ce qui est parfois un peu compliqué, c'est-à-dire que le fait de recevoir des financements publics de la mairie de Paris, par exemple, c'était très bien, c'est toujours très bien, on est très content de les avoir, parce que sans ça on aurait beaucoup de mal à survivre, on n'aurait pas un lieu et tout ce genre de choses. Mais ça veut dire que le modèle qui a permis cette évolution-là, le modèle économique de nos associations, en tout cas de mon association, est très dépendant de ces financements, de ces financements publics, et le fait qu'il y ait un retour de bâton de manière politique globale. Alors les politiques nous suivent, enfin sur Paris on peut bénéficier d'une écoute tout à fait favorable, etc. Mais typiquement sur la région, on a fait voter, on avait un projet en matière de santé de lesbiennes, et on a réussi à faire voter in extremis avec les derniers petits bouts de budget de la mandature, parce qu'il y a le gros risque que la région bascule. Et bascule vers Valérie Pécresse, qui voulait démarier les couples de même sexe, donc formidable. Et donc on sait très bien que là, il va y avoir un gros effet d'étranglement au niveau de la région. Si la mairie de Paris bascule, ce qui est peu vraisemblable aujourd'hui, mais typiquement, si ça arrivait, parce que ça peut toujours arriver, ce serait aussi très compliqué, parce que jamais la droite parisienne n'est pas exactement sur ces lignes-là. Donc, pour le coup, c'est une évolution, ça correspond aussi à l'évolution globale, c'est-à-dire plus de visibilité, plus de force, plus d'action possible, mais aussi avec le revers de la médaille, qui est cette dépendance et le fait que du jour au lendemain, tout peut basculer. Et donc ça aussi.
Alors cette histoire de politique locale municipale, ça fait vachement écho à ce qui nous est arrivé en juin dernier à Rouen, où on a eu différentes difficultés au sujet de la thématique de la GPA qui avait été votée au sein du collectif LGBT Interasso, et qui, élection régionale approchant, nous a valu pas mal de vagues avec la région, qui nous avait accordé un financement et qui nous l'a retiré. Voilà, donc vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus. Nous, c'est une de nos grandes questions aujourd'hui. Est-ce qu'on va encore solliciter des subventions publiques, avec ce risque que du coup, on s'est retrouvé avec des affiches sur les bras qui avaient été payées, avec un trou du coup de 800 euros, ce qui fait un peu plus d'un tiers de notre budget pour la marche. Sachant que nous, on a, encore une fois, je le redis, pas de sous et très, 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 très peu de subventions. On a de beaux engagements symboliques des institutions, comme la levée des Rainbow Flags sur le parvis de l'hôtel de ville. Ça, c'est tout le monde l'apprécie quand on fait l'arrivée de la marche, c'est très sympa, mais zéro financement derrière. c'est à, voilà, c'est en balance. Si on compare la situation avec les Canets, qui ont par contre eux un financement de la ville qui maintenant est à droite, nous on a des élus de gauche avec du coup des situations comme ce qu'on a connu avec la Pride. Donc ok, la GPA, les anti, la manif pour tous, ça fait flipper tout le monde. Nous on avait un rassemblement d'anti à pile en même temps que notre départ de Pride cette année. Finalement, ça, c'est... ils n'ont pas fait leur truc, mais on devait se croiser. Ça nous a valu quelques tensions, un bel encadrement des flics, voilà. C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on va encore aller chercher des subventions? Est-ce que quand on nous dit qu'on nous les donne vraiment ces sous, est-ce qu'on les a pour de vrai? Est-ce que finalement, on peut garder les revendications qu'on veut sans être tenu par les lignes politiques des élus? Je sais pas. Honnêtement, on n'a pas encore les réponses et personne ne se saisit de ça. Personne n'a d'avis vraiment tranché là-dessus. Les commerçants, ils nous soutiennent. Enfin, les commerçants LGBT nous soutiennent en partie. On n'en a pas énormément non plus à Rouen. Voilà. Tout ça, c'est des questions qui restent en suspens et on est preneurs et preneuses d'avis et d'expériences là-dessus.
Je vais monopoliser un petit peu. Alexis, toujours collectif éducation. Non, c'est juste pour un petit point pour rebondir, pour un peu anecdotique, mais par rapport à l'influence du positionnement politique et des subventions, etc. Donc, vous savez peut-être que la ligne Azur, le dispositif ligne Azur d'écoute aux jeunes qui se questionnent sur leur orientation sexuelle, voilà, n'a pas été mis en place l'année dernière, a été reporté, devait ressortir à la rentrée de septembre, est encore reporté, et donc que la date de sortie officielle sera le 14 décembre. Pourquoi ? Parce qu'il faut surtout éviter de le sortir avant les régionales. C'est trop dangereux. Donc du coup, il y a encore une... Même quand la majorité semble acquise à nos revendications, à quelques-unes de nos revendications, il y a tellement de craintes de mouvements sociaux, de mouvements réactionnaires, que on peut rien faire, quoi. Donc il y a cette situation de blocage qui n'est pas forcément liée au manque de sensibilisation des politiques locaux ou nationaux, c'est vraiment à la peur des groupes réactionnaires qui restent constantes et qui rentrent dans le contexte scolaire, dans les associations de parents d'élèves désormais, c'est-à-dire que les mouvements Manif pour tous sont dans les associations de parents d'élèves de l'enseignement public, hein, désormais, parce que dans l'enseignement privé, les associations de parents d'élèves sont déjà, depuis longtemps, envahies par ces mouvements réactionnaires. Voilà, donc du coup, les pouvoirs publics, c'est dur, quoi qu'il arrive, de travailler avec.
Amanda Rodez, si je peux rebondir rapidement sur le fait que nous aussi, on a aperçu que l'année dernière, pendant les élections municipales, notre demande de subvention de la ville de Rodez a été mise en attente. C'est comme elle a évoqué Flora déjà, c'est que quand il y a les replis budgétaires, c'est souvent les subventions, les assos qui sont un peu mises de côté. Mais là, l'année d'avant, ils étaient bien contents de nous donner. On s'est dit peut-être qu'on ne fait pas assez d'actu ou c'est un peu trop risqué. Pendant la période de la vote de loi du mariage pour tous, certains commerçants ne voulaient pas afficher nos affiches parce que ça faisait politique. On leur dit on est apolitique, on est apartisan, on est là pour le bien, pour lutter contre les discriminations. Mais quand même, ça fait l'actu. Aussi, en même temps, on avait des journalistes qui ont profité. C'est-à-dire, on avait un article qui parlait de notre manif pour le mariage pour tous. Ils ont mis une photo de deux femmes en déguisement bavarienne de Oktoberfest en train de s'embrasser sur la première page. On n'a pas du tout compris. J'étais raide. Vraiment pas contente, quoi. Donc nous aussi, on voit qu'il y a l'enjeu politique. Qu'est-ce qui peut attirer? Qu'est-ce qui peut fasciner? Un peu le côté danger aussi, de se mêler avec nous. Et même dans les interventions au milieu scolaire, nous aussi... nous aussi, on a remarqué qu'on était bien invités à la journée de lutte contre la discrimination mise en place par la DDCSPP, mais au moment de faire l'enregistrement vidéo pour les parents,
ils ont demandé, on a entendu la dame demander d'enlever quand on a dit lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel. Enfin, c'était bien pour eux qu'on participait, pour leur petit bilan de participation, mais quand il s'agissait de ce qui allait être montré aux parents, donc c'est là où je rejoins ce que tu dis, faut pas dire gay, quoi. Et lesbienne, c'est peut-être pire, je ne sais pas. Rapidement, on vient d'avoir un nouveau arrivé. Donc, je te présente vite fait juste nom, ville d'où tu viens et puis tes motivations pour être là.
D'accord.
Je peux en reprendre avec toi.
Je suis Nicolas Piquet, je fais l'association des îles et des ailes et je suis de Carpentras.
Ok. C'est quoi ça? Donc on va Nicolas?
Oui.
Super. Bon, on va continuer du coup, je repasse.
Alors on va passer du coq à l'âne, mais je vais parler en tant qu'ex-athée intégriste. Et qui aujourd'hui voudrait être une athée inclusive. Et je pense que le mouvement LGBT devrait s'interroger en France sur ses rapports avec les personnes croyantes, dans la mesure d'abord simplement d'égalité et que finalement la foi ou on la choisit pas plus qu'on choisit l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Ça s'impose de la même façon. Mais surtout, je pense qu'il s'est passé dans l'Église catholique depuis une trentaine d'années un rétro-pédalage absolument affolant. Alors j'ai écrit un papier dans YAG là-dessus. Moi, en tant que personne trans qui attend que cette loi soit votée, ma terreur, c'est que la hiérarchie catholique parte en guerre contre nous. Et en même temps, pour moi, un des grands moments, c'est un moment où à la télévision, Christine Boutin a été confrontée à celui qui avait rédigé la loi du mariage pour tous, et qu'il lui a dit « mais je suis catholique ». Et c'est qu'en tant que catholique que j'ai voté cette loi. Et là, je pense qu'on devrait s'appuyer le plus possible sur les chrétiens humanistes et les chrétiens progressistes. Alors j'ai fait un papier très historique pour expliquer l'affaire Dreyfus, d'un côté la hiérarchie catholique qui était anti-Dreyfusarde, mais de l'autre côté Peggy ou Léon Blois qui était Dreyfusarde. Il y a toujours eu dans l'Église catholique un pôle nord et un pôle sud, les pétinistes et puis les maquisards. Et il faudrait qu'on aille creuser là-dessus. Je crois que la plus ancienne, les deux plus anciennes associations LGBT, vous avez David et Jonathan et la SMF. Vous avez les chrétiens et les sadomasos. Ça donne une idée un petit peu de l'inconscient des Français. Oui, on peut dire aussi que le marxisme-léninisme, ça peut être lié avec le sadomasochisme aussi. On peut le goulag et tout ça. Voilà, c'est. Moi, je trouve que dans la communauté, les deux qui sont les plus mal reçus, c'est les homo ou trans chrétiens et les bisexuels. C'est vraiment les deux moutons noirs de la communauté. Donc il faut qu'on essaye de revenir là-dessus parce que c'est eux qui connaissent le mieux les gens à aller voir. C'est les bons conseils. Vous savez un petit peu tout. Voilà. Bon, je suis très idéaliste, mais. Alors il y a des trucs techniquement, moi ce que j'ai vu d'arriver dans l'Église catholique, c'est le renouveau charismatique. Ça c'est vraiment, c'est une terreur. C'est vraiment, ils reprennent les évangélistes américains et ils font les mêmes trucs avec des trucs de trans où les gens
C'est le speaking in two tongues en Amérique. Les gens parlent en langue, ils rentrent en transe, ils font glou 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 bli bli bli. On dit ah, ils parlent le Pentecôte, oui, c'est le pentecôtisme qui s'est abattu sur eux. Et c'est eux, évidemment, les plus réactionnaires et les plus fanatiques. Voilà, j'ai tout dit.
On passe donc à Anne, et puis ensuite à toi, et puis ensuite on va faire les synthèses collectives avant de terminer, si ça vous va.
Oui, donc Henriette du collectif IDEM. Bon, moi je voudrais réagir par rapport à... au poids, on va dire, le poids des régionales, etc., et qui rendrait les politiciens frileux. Moi, je pense qu'il n'y a pas qu'un poids des régionales. Il y a quand même des volontés politiques, très fortes, des volontés politiques de faire des économies à tous les niveaux, sur les droits en général. Les homosexuels sont confrontés donc à ça, mais c'est tous les domaines. Dans la santé, c'est des économies à tous les niveaux. Donc ça concerne les personnes qui ont le VIH et ça concerne aussi l'ensemble de la société. Il faut pas l'oublier, quoi. Certains veulent garder leur pouvoir, mais voilà. Après, derrière, il y a la volonté de faire des économies, il y a des enjeux politiques énormes, et puis remise en cause des droits à tous les niveaux, qui est absolument dramatique. Quand tu dis une manifestation, donc les associations de parents d'élèves qui interviennent dans l'école, etc., c'est aussi le résultat d'une politique de ce gouvernement. Il s'agit d'ouvrir l'école au maximum, mais si on l'ouvre au maximum, eh bien on l'ouvre à l'intégrisme, on l'ouvre aux entreprises, on l'ouvre à... voilà quoi, et on détruit aussi l'éducation en tant que telle, moi je pense. Bon, maintenant, pour ce qui concerne les subventions, alors là, le collectif IDEM, pour ce qui le concerne, donc depuis sa création en 2012, a fait des demandes de subventions pour qu'on puisse faire la Pride, par exemple. On a fait des demandes de subventions pour le festival Transform, qui va avoir lieu à la fin du mois. On obtient des subventions. Pour la Pride de l'année dernière, on a obtenu 30 000 euros de subventions. Pour un événement qui a été organisé pour 57 000 euros. Et on a obtenu des subventions pour la première fois, on a obtenu 10 000 euros de la ville de Marseille, ce qui est une grande première. Bon, alors, c'est sûr que, voilà, on argumente, on suit, on va défendre nos dossiers, etc. Bon, ça, forcément, c'est évident, je pense que tout le monde le fait. Après, on essaie chaque fois, que ce soit pour la Pride, on a essayé d'avoir des fonds propres. Donc, par exemple, la Pride de l'année dernière, on a fait un grand bar au MUCEM. Sur l'esplanade du MUCEM à Marseille, et donc ça nous a c'était le collectif IDEM qui gérait le bar, donc ça c'est quand même très important. Pour ce qui concerne Transform, c'est pareil, on va avoir un bar, les entrées, etc., donc je veux dire voilà, mais bien sûr que nous aussi on se pose la question dans le contexte de la région PACA du devenir, voilà, mais on se pose pas la question pour l'instant, de l'indépendance. Voilà. Là, par exemple, le festival Transform, c'est parler de festival de création queer contemporaine. ça va pas tout de suite de soi, mais néanmoins, voilà, on se dit, on est encore en train de se dire, mais tout est possible. Ouais. On peut le faire. On va y arriver. On s'est créé depuis peu, mais on s'ouvre immédiatement au-delà des LGBT. Parce que le festival, c'est au-delà des LGBT à Marseille. Voilà.
C'était pour redonner un peu d'espoir. Hein.
J'ai remarqué que quand on veut mener une action ou qu'on a un projet, pardon, Michel. quand on travaille en partenariat avec d'autres associations, c'est toujours le projet est bien reçu. Quand je dis d'autres associations, c'est pas seulement des associations LGBT, mais ce sont les associations de lutte contre les discriminations et on peut s'inscrire dans un réseau d'associations comme ça. Et on obtient des subventions, souvent, que ce soit avec SOS Racisme ou la Ligue des Droits de l'Homme ou autre. Donc ça, c'est sans doute, tu parlais tout à l'heure, Hélène, d'aller voir un peu David et Jonathan, ou en tout cas, je pense aussi que c'est quelque chose à suivre. Essayer d'ouvrir au maximum et de travailler en partenariat et dans l'intérêt général de la société, de trouver des passerelles, des points communs. Il y en a plein.
Du coup, on va passer. Là, il ne reste que 10 minutes. L'idée, c'était d'essayer de faire une synthèse collective de un peu ce qui a été dit. Je ne sais pas comment c'est ça. Parce qu'on a dit quand même beaucoup de choses. Ce qui a...
On pourrait commencer par le truc de Diaz qui a un recul. Voilà, est-ce que y a un recul ou pas? Tu vois, on est devant deux perspectives. Une où ça avance et l'autre où ça recule. Les deux, des fois, sont mélangés. Mm-hmm. Et bon, la crise a quand même un petit peu aidé. Maintenant, si on commence à parler de la corruption des hommes et des femmes politiques... on va arriver très vite à une empoignade générale.
Je vous laisse en fait, je vais juste vous le passer et je vais juste noter ce que j'entends.
Théo, Aide Paris. Du coup, en fait, des échanges, là, moi, je retiens effectivement, avec recul et avancée, tout lié. Trois topics principaux, en fait. Une question politique avec la visibilité des minorités au sein de nos minorités. Comment revendiquer leurs droits, comment faire face à la technicité, transférer, enfin, empowerer sur le savoir, l'histoire et élargir, du coup, pour s'inscrire dans un mouvement plus global, société civile. Il y a un topic modèle économique. Avec quelle dépendance par rapport aux subventions des collectivités territoriales et quelle place pour les fonds propres et comment les constituer avec un constat quand même que financièrement on est plutôt faible. Et du coup la question du lien avec les religions et comment défricher un peu en fait ce champ qui est pas nouveau mais qui peut exploiter. Si je retiens.
Je dirais qu'on a assez, on a aussi touché sur le lien avec les écoles, avec l'éducation et l'éducation populaire. Parce que enfin, c'est une grosse question, ça a été évoqué par plusieurs personnes aussi. Je ne sais pas qui veut parler tant que je note.
Oui, par rapport à la sensibilisation LGBT-phobie dans le milieu scolaire, il y a encore beaucoup de frilosité de la part des directeurs d'établissement, voire même au niveau des rectorats, bon, des enseignants qui peuvent être frileux ou qui peuvent être en souffrance d'ailleurs. En étant eux-mêmes LGBT. Bon, une chose aussi, peut-être qu'on a, on n'a pas parlé de ça, mais je pense aux manuels scolaires. Bon, il y a rien dans les manuels scolaires par rapport aux orientations sexuelles, au genre, etc. Les ABCD de l'égalité, bon, qui ont été évacués aussi, alors qu'il y avait eu un énorme travail de fait par rapport à ça, et notamment au niveau des outils à utiliser ou qu'on pourrait utiliser. Quand on est en contact avec des assistantes sociales scolaires ou infirmières scolaires ou autres, on se rend compte très rapidement que ces personnes ne sont pas sensibilisées, ça ne fait pas partie de leur formation. Donc là aussi, il y a énormément de progrès à faire. De même, alors justement, en parlant de la formation des professionnels, donc comme par exemple dans les IRTS avec les futurs éducateurs, futures assistantes sociaux, enfin, c'est énorme. Le champ est vraiment, vraiment très très vaste. C'est vers ça, je pense qu'il faut qu'on avance, trouver des interlocuteurs, discuter, se faire connaître, échanger. C'est sûrement des pistes importantes à voir.
J'ai aussi entendu parler, dans ce coin-là, on parlait justement du fonctionnement de nos associations et de nos mouvements locaux, c'est-à-dire la formation des nouveaux bénévoles ou les énormes risques qu'ils ont pris par les personnes pour monter un projet qui est peu soutenu. Je ne sais pas si vous pensez que je devrais le noter et si vous avez des choses à ajouter. Fonctionnement de vie associatif, qu'est-ce qu'on pourrait y dire? Après ces cafés, je vous promets. Hein.
Ça manque de café. Ouais. On va avoir du café à la fin.
Voilà.
Oui. Ah ouais, oui. On peut faire passer la motion peut-être. Je sais pas si
on peut. Sinon, on travaille en délocalisé, on va au café. Ouais,
d'accord.
Bon, non.
Ouais, voilà.
Antonin, Fédération LGBT, donc nationale. Le fonctionnement des groupes locaux n'est pas évident. Donc notamment, on relevait les besoins de former, fédérer les gens, et que souvent, beaucoup de responsabilités et d'enjeux reposaient sur trop peu de personnes avec trop peu de moyens. Donc voilà, comment est-ce que localement, on fonctionne?
Pas les moyens, pas les militants. Oui, même les organisations nationales... lorsqu'il faut organiser un grand rassemblement, n'arrive pas à fédérer suffisamment et à avoir les moyens de leur structure. Le 13 mai dernier, on a fait un colloque avec des inscriptions nationales sur un jour non travaillé, avec les associations, pas que le collectif. On a eu un peu plus de 100 personnes pour une ambition trois fois supérieure, et une manifestation avec très peu de personnes. Les structures syndicales avaient 4-5 personnes qui sont venues. Quoi. On est toujours dans le... Et puis on est dans le côté... nos organismes nous disent c'est bien ce que vous faites. Mais vous faites pour nous. Voilà. On n'en parle pas trop.
Ça, je pense que c'est... Un problème que toutes les associations vont rencontrer, c'est qu'à partir du moment où on s'investit, on va d'une certaine manière pousser les autres à rester chez eux. Et c'est voilà, c'est comment s'investir sans démobiliser les gens qui disent ils sont là pour ça. À un moment, à ACT UP, on sentait ce truc un peu genre allez-y, comme ça nous on peut rester chez nous. Et ça, c'est une vraie discussion de l'activisme.
De l'engagement dans ce sens.
ne pas susciter de la passivité chez les autres.
On va dire que vous avez mérité le café, hein? On va poser.
Tony, la synthèse.
Voilà. Christine, je les récupère toutes moi aussi. D'accord.
En fait, ce qu'on a fait, elle est en train de tout taper.
D'accord.
On va l'envoyer par mail dès la fin. Et en même temps, on a fait des synthèses collectives.